Vous êtes avec SBS French.
Et on débute avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Attentat très meurtrier dans une mosquée en Afghanistan. On dénombre 62 morts. Très forte manifestation sur le coût de la vie. C'est au Liban. Et jour J pour le Brexit. Le deal passé entre Boris Johnson et l'Union européenne sera testé ce soir face au Parlement britannique. Je viens de vous le dire en titre, au moins 62 morts et des dizaines de blessés dans un attentat qui visait une mosquée. C'est dans l'est de l'Afghanistan. Les talibans rejettent toute responsabilité et cette attaque intervient alors même que le pays attend les résultats du premier tour des élections présidentielles, les élections du 28 septembre dernier. Et dans le pays, l'escalade de la violence est flagrant. Le point et les précisions avec Sonia Ghazali depuis Kaboul.
Des dizaines de fidèles priaient au sein de la mosquée de Jaudara quand deux explosions ont retenti. Sous la puissance des déflagrations, le toit de l'édifice religieux s'est effondré, racontent des témoins sur place. Les bombes étaient placées à l'intérieur. Les tapis sur le sol sont recouverts de sang et de débris de verre. Cet attentat a été perpétré dans le district de Debala, à quelques kilomètres de la frontière avec le Pakistan, dans la province de Nangarhar. Les forces de sécurité afghanes y combattent les talibans, mais aussi le groupe État islamique. Celui-ci avait fait sa première apparition dans le pays, dans cette province de l'est de l'Afghanistan, fin 2014. Les talibans nient toute implication. Il y a quelques semaines, leurs représentants ont rencontré l'émissaire américain Zalmay Khalilzad au Pakistan voisin, entrevue qui laisse présager la reprise des pourparlers entre Washington et le groupe d'insurgés selon plusieurs observateurs. Le climat dans le pays est délétère, en cause l'incertitude face à l'issue du scrutin présidentiel du 28 septembre dernier, étant donné les nombreuses accusations de fraude émanant de plusieurs candidats à l'encontre d'autres. Les résultats seront annoncés avec du retard dans plus d'une semaine. La population craint une crise post-électorale et encore plus de violence.
Et c'était Sona Ghazali, donc depuis Kaboul. Direction de la Turquie et la frontière turco-kurde. Selon les Nations Unies, plus de 16 000 personnes ont été déplacées du nord de la Syrie, ce depuis l'accord de cessez-le-feu conclu par la Turquie hier. Et malgré le cessez-le-feu, donc, des tirs d'obus et d'artillerie continuent d'être entendus autour de la ville de Ras Al Aini. Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a déclaré que la situation est généralement calme, mais la crise humanitaire se poursuit.
Yesterday alone, 16,250 people were reportedly displaced from communities in northern Aleppo towards Manbij. Displaced families are staying with relatives or in informal settlements. Despite challenges, humanitarian partners continue to assist people in need where access is possible. Focus has been on support to those newly displaced, both in collective shelters and in host communities, as well as in the camps.
Voilà donc Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Le cessez-le-feu a été conclu après 4 heures de pourparlers entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le vice-président américain Mike Pence. L'accord exige des combattants turcs qu'ils quittent une partie de leur territoire en Syrie, le long de la frontière turque, qu'il détenait auparavant avec le soutien militaire américain. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que le cessez-le-feu se passait bien malgré des tirs sporadiques. On l'écoute.
I just spoke to President Erdogan of Turkey. We're doing very, very well with Turkey. There's a ceasefire or a pause or whatever you want to call it. There was some sniper fire this morning. There was mortar fire this morning that was eliminated quickly. And they're back to the full pause. We have ISIS totally under guard.
Voilà donc le président américain Donald Trump. En Espagne maintenant, le gouvernement avertit les manifestants séparatistes qu'ils risquent une peine de prison de 6 ans après de nouveaux affrontements violents dans les rues de Barcelone. La police anti-émeute a utilisé des balles en caoutchouc, des matraques et des fourgons lanceurs d'eau pour disperser des centaines de manifestants qui avaient encerclé le siège de la police nationale dans la capitale catalane. Donc plusieurs ont été arrêtés alors qu'ils jetaient des bouteilles, des œufs et de la peinture sur la police et avaient même incendié des poubelles. Mais ailleurs dans la ville, on estime plus d'un demi-million de personnes ont participé à une manifestation pacifique contre l'emprisonnement des dirigeants séparatistes catalans. Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marsalaska, a averti que la violence sera réprimée pleinement.
To these minority groups, I would like to send them this message. We are going to apply to the violent separatism the penal code with all forcefulness, and to all the separatism which acts outside the law too. And I remind them that the crimes of attacking authority, the penal code foresees charges that could carry up to 6 years in prison.
Et 13h06, direction Bruxelles maintenant. C'est la fin du Conseil européen et à l'agenda, il n'y a pas que le Brexit, croyez-le ou non. Les 27 se sont quittés avec deux désaccords majeurs. Ils n'ont pas réussi à s'entendre sur la réforme du budget d'après le départ des Britanniques et ils n'ont pas validé l'ouverture du processus d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Et c'est notamment la France qui s'y oppose. Anthony Latier, depuis Bruxelles, nous explique tout ça.
Emmanuel Macron était à la recherche de garanties. Pour ne pas essuyer un nouveau camouflet, le président français a initié des tractations avec les chefs d'État et de gouvernement représentant la droite, les sociodémocrates et les centristes européens.
On doit rassembler. Je veux dire, on n'a aucune envie que notre Europe soit bloquée. Donc nous devons travailler ensemble avec nos différences, mais il doit au moins y avoir une espèce de ce que j'appelais cette majorité de responsabilité et d'ambition qui permettent d'avancer. Je l'ai dit, pour moi, c'est un vrai dysfonctionnement et c'est une crise politique.
Retisser des liens, se rabibocher, problème, Emmanuel Macron s'est à nouveau attiré les foudres de ses partenaires quand il s'est opposé à l'ouverture du processus d'adhésion pour l'Albanie et la Macédoine du Nord, mais le président assume.
Pardon de ne pas toujours céder à la tyrannie de la majorité ou à la pression de la bulle, mais j'essaie de faire les choses que je crois bonnes sur le plan politique et stratégique.
Une faute historique, une erreur, les autres dirigeants n'ont pas été tendres avec Emmanuel Macron à l'issue du Conseil européen.
Et c'était Anthony Latier pour RFI. Du côté du Brexit, eh bien le Premier ministre Boris Johnson a déployé ses derniers efforts pour convaincre les députés des bienfaits de son deal de Brexit, deal accordé par l'Union européenne cette semaine, je vous le rappelle. Il a notamment tenu une réunion d'urgence de son cabinet avant le vote crucial du Brexit, vote qui doit se tenir au plus tard ce soir. Je vous rappelle que le gouvernement n'est plus majoritaire dans l'Assemblée et dispose de 288 voix, là où il y en faudrait 320. La première ministre écossaise, par exemple, Nicola Sturgeon, a déclaré que les députés du Scottish National Party, eh bien, tout simplement, voteraient contre l'accord.
It's a bad deal for Scotland. It's worse even than Theresa May's deal, and it's actually hard to imagine a worse set of proposals. It takes Scotland out of the EU single market customs union, all against our will. Places us at a competitive disadvantage with Northern Ireland, and opens up the prospect, I think, of a very hard Brexit. So there's no circumstances in which the SNP would support a proposition like that.
Voilà donc la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon. Les Britanniques se préparent donc à un super Saturday. Et de l'autre côté de la Tamise, juste en face du Parlement, eh bien tout simplement, on demande un deuxième référendum. Béatrice Léveillé est allée les rencontrer.
Southbank, la rive sud de la Tamise, un lieu de distraction. Touristes et londoniens profitent des théâtres, des librairies et des musiciens entre deux averses. Mais le Brexit est dans toutes les têtes. Il y a ceux qui applaudissent Boris Johnson, comme Paul.
Je suis heureux qu'il ait réussi à obtenir quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je ne crains rien.
Et ceux qui iront manifester contre le Brexit, comme Marc ce samedi.
C'est une tragédie. C'est le résultat du fait qu'une grande partie de la population ne comprend pas notre place dans le monde. Ces gens pensent que nous avons un rôle plus important que celui que nous avons en réalité. Ils ne réalisent pas que ce rôle est amplifié, comme pour la France, parce que nous sommes membres de l'Union européenne. Ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'Union européenne, ce n'est pas bon économiquement. C'est catastrophique pour les relations entre les gens. Cela a augmenté le racisme. Nous vivons une sorte de drame et je ne sais pas si on peut l'arrêter. Je pense qu'on sera plus d'un million dans les rues de Londres.
Une journée décisive pour les Britanniques qui pourront se compter en fin d'après-midi dans la rue et à l'intérieur du Parlement.
Voilà donc Béatrice Léveillé, juste en face du Parlement britannique. Pour sa part, le ministre du Commerce australien Simon Birmingham a déclaré que le pays était bien placé pour conclure des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Tout ça après le Brexit. Il a ajouté que les négociations commerciales formelles seraient lancées dès que c'est possible.
If the deal that has been struck between Prime Minister Johnson and the EU is actually brought into force and accepted by the UK Parliament, that we would have pretty much until the end of next year to be able to conclude negotiations on a deal with the UK and then to be able to legislate and seek to bring that into force, perhaps in tandem with the finalisation of those Brexit steps.
Voilà donc le ministre australien du Commerce, Simon Birmingham. Des milliers de manifestants au Liban sont à nouveau sortis dans les rues de la capitale pour la deuxième journée consécutive pour protester contre la corruption et la dureté de la vie. Ces manifestants, c'est les manifestations les plus importantes de ces dernières années. Et tout cela menace la fragilité de la coalition au pouvoir. Écoutez l'analyse de Joseph Baou, il est professeur et politologue à Sciences Po.
Il ne faut pas être grand clerc pour savoir qu'en 72 heures, ce gouvernement ne pourra rien montrer de plus qu'il n'a montré durant les 3 ans. On peut dire que c'est un geste peut-être lâche et peut-être que Saad Hariri attend de ses alliés ou de ses partenaires dans le gouvernement, à savoir les forces libanaises et le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblatt, qu'ils démissionnent eux-mêmes, ce qui est attendu dans les heures qui viennent, et donc le sauveront de lui-même prendre la décision de la démission, puisqu'à partir de là, son gouvernement sera inopérant arithmétiquement et mécaniquement. Donc on est un peu dans une sorte de zone très floue, très grise, où la lâcheté, le dispute à la démagogie, le rejet de la responsabilité sur les autres, ça ne grandit pas la classe politique libanaise aux yeux des gens qui sont dans la rue et qui déjà ont une idée extrêmement piètre de leurs dirigeants. Ce qui est à craindre par contre, c'est que ces 72 heures qui s'ouvrent à partir de maintenant ne laissent sa place à des dérapages dans la rue. Le pays est vraiment à cran et la classe politique sent qu'elle est peut-être, pour la première fois depuis très très longtemps, unanimement en danger. Certains de ses membres pourraient être tentés par l'utilisation de la violence pour essayer de faire déraper le mouvement et l'emporter dans une autre direction.
Voilà, 13h12, temps de faire un tour d'horizon de la météo pour aujourd'hui en Australie. À Perth, il fera 32 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 15, Hobart 14, Canberra 19, Sydney 28, Brisbane 29, Cairns 32 et un toujours très agréable 33 degrés à Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Attentat très meurtrier dans une mosquée en Afghanistan. On dénombre 62 morts et des dizaines de blessés. Très forte manifestation sur le contrôle de la vie et contre la corruption au Liban, on vient de l'entendre. Et jour J pour le Brexit. Le deal passé entre Boris Johnson et l'Union Européenne sera testé aujourd'hui face au Parlement. 13h13, on fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme dans quelques instants. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.